Poor Little Belgium, Pauvre Petite Belgique, une série proposée par Christine Mazuy, avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles. Réalisation, Jeanne de Barcy. Août 1914. Dans les villes martyrs, les civils sont au cœur du conflit. Septième épisode, Terreur sur la Gaume.
Nous sommes en Gaume, entre, je dirais, la frontière belgo-luxembourgeoise et toute la partie qui est Bouillon, Virton, Florentville.
Jean Braise, président de l'association Sur les pas de la mémoire.
C'est la bataille du 22 août, c'est l'affrontement général sur toute la frontière franco-belge.
C'est la première grande bataille, dans le fond. Hein, et alors qu'il a été très difficile, très dur, hein.
Il paraît que c'est le jour où la France a perdu le plus d'hommes depuis que l'armée française existe, en quelque sorte. Les civils se planquaient comme ils pouvaient, évidemment, tout brûlait partout.
Jacques Clos, historien local à Tintigny.
Par exemple, ici, le 21, il y a des soldats allemands qui sont venus jusqu'à Tintigny. Ils en ont pris 96, évidemment, ils ont commencé par le curé, le bourgmestre, le notaire, le percepteur des postes, enfin ils ont pris 96 personnes comme ça, puis un peu n'importe qui, hein. Ça allait du bonhomme qui était important, qu'il fallait porter, qui avait 80 ans, au jeune gamin qui avait 16 ans. Et alors ils les ont baladés toute la matinée dans les rues de Tintigny, qui étaient déjà en feu, parce qu'ils l'ont incendié ici. Le matin, vous aviez une histoire comme 200 maisons, et le soir, il vous en restait 10 à peu près, quelque chose comme ça, tout le reste avait brûlé. Je me rappelle quand j'étais gosse, je connaissais une femme. Elle racontait toujours, quand elle était gamine, elle avait 10 ans. Ils ont arrêté son père, ses deux frères, son beau-frère. Le plus jeune des deux frères avait 16 ans. Elle donnait la main à son frère. Elle l'a suivi son frère ici, donc c'était du fond du village. Elles sont arrivées ici sur la place. Et le frère lui a dit, retourne, on va en Sarre, c'est trop loin. Retourne. Et la gamine est retournée. Et le gamin est arrivé en Sarre, il avait 16 ans, ils l'ont fusillé. Ils ont tué un monsieur qui se cachait dans les roseaux le long de la Smois avec sa petite fille dans les bras. La petite fille est tombée à l'eau, elle avait un an et demi, elle s'est noyée évidemment. Il y a des morts à tous les coins de rue, partout, tout le long du chemin, dans les champs, dans les prés, n'importe où. Les troupes avaient été remontées à bloc pour dire qu'il fallait faire régner la terreur. Et, il faut s'imaginer, plus de maisons, plus de maris, plus de bétail, plus de fourrage, plus rien pour vivre, il n'y a plus rien. Ils n'ont que ce qu'ils ont sur le dos. Sur 2-3 heures de temps, la vie de ces gens-là a été complètement bouleversée. Et tout le monde a été atteint, sans exception. Il y a une dame à Rossignol qui disait au curé de Rossignol, « Je veux mourir, je ne supporte plus de vivre comme ça. » Elle avait perdu 16 membres de sa famille le jour du 26 août. Donc mari, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin.
Dans ce village paisible, avec sa vie qui tournait bien.
Jacqueline Dalloz, Rossignol.
Et puis tout d'un coup, paf!
Dès la nuit du 22 au 23 août, il rassemble plusieurs habitants dans l'église du village.
Rémi Pierlot, historien, Fondation Merci.
Peu de temps après, il sépare les hommes des femmes et des enfants. Les hommes sont emmenés vers une prairie qui se trouve à la sortie du village. Le 25 août, les civils et les soldats partent à pied vers la gare de Marbehan, Marbehan qui se situe environ à une petite dizaine de kilomètres de Rossignol. Les civils sont emmenés en train jusqu'à la gare d'Arlon durant la soirée du 25 août.
Et ils ne savent quoi faire avec ces gens-là en gare d'Arlon. Il y a un petit gradé qui téléphone au colonel von Tesmar qui était en train de prendre l'apéritif à une terrasse à Luxembourg. Et qui répond tout simplement, fusillés, c'est tous des francs-tireurs.
Les Allemands font descendre les civils du wagon dans lequel ils se trouvaient depuis la veille au soir. Ils les rassemblent et c'est là qu'en peloton d'exécution les fusillent. L'exécution prendra environ 2 heures et au terme de celle-ci, 122 personnes seront mortes.
Les gens ne s'imaginaient pas que les Allemands pouvaient les massacrer.
Jean Dauphin.
Mais le 23, les régiments allemands entrent dans Haète. Et à ce moment-là, c'est la chasse à l'homme. Je crois qu'il y a 280 civils de Haète, femmes, enfants, etc., hommes qui sont massacrés. Donc ça fait presque le quart de la population, c'est quand même énorme. Le village de Haète est brûlé, détruit volontairement.
Beaucoup de victimes sont restées dans les caves et sont mortes, étouffées ou brûlées dans les caves.
Jean Bresse.
Ceux qui voulaient sortir étaient systématiquement soit fusillés sur place, soit emmenés dans des groupes d'une vingtaine de personnes, trentaine de personnes, et fusillés dans les différents endroits.
Pour eux, ça a toujours été l'argument, ces civils ont tiré sur nous. On a fait des enquêtes et dans l'enquête, figurez-vous, on est parvenu à trouver qu'une gamine de 3 ans avait tiré sur les soldats. C'était un peu fort l'argument. Hein. Tout ce qui s'est passé, c'est effrayant. Hein. On tire des enfants, excusez-moi de dire ça, un peu comme des lapins dans la rue. Je ne sais pas, moi. Je me suis toujours dit, dans ces soldats allemands, il y avait des pères de famille. Comment est-ce possible qu'ils aient pu tirer sur un gosse?
Donc une fois la bataille de Haète terminée, restent évidemment sur le terrain de nombreuses victimes, blessées ou morts. On recrute alors à ce moment-là des gens du village de Latour pour venir nettoyer le terrain et enterrer les morts.
Tous les hommes de Latour doivent se rendre sur le champ de bataille pour ramasser les blessés.
Jean Dauphin, instituteur retraité, fondateur du musée de Latour.
Ce qui fait que vers 7-8 heures du matin, disons, le bourgmestre a rassemblé tout ce qu'il pouvait trouver comme hommes, et alors ils sont 73. Bon, ces gens partent vers Haète. Et à un certain moment, sur un ordre, il n'y a pas de doute, hein, le massacre commence. Donc ces 70 et des malheureux vont être massacrés dans les prairies, là, à la sortie de Latour. Il y a eu 2 rescapés. Il y avait, imaginez-vous, donc sur 200 et des habitants, il y a 40 veuves. Il y a plus de 100 orphelins. C'était pratiquement toutes les familles de Latour qui étaient concernées.
Et donc, pendant la guerre et après la guerre, eh bien, ça devient pratiquement des matriarcats.
Laurence Van Ieperzeel, professeur d'histoire, Université catholique de Louvain.
Parce que qu'est-ce qui reste? Ou bien les vieux, ou bien les enfants, quelques hommes qui sont partis à la guerre et qui reviennent, et les veuves.
Toutes ces femmes se sont regroupées, très peu se sont remariées, et elles ont pris en charge leur famille. Donc ces femmes, elles savaient faire tous les métiers d'hommes. Il fallait survivre, ce n'est même plus vivre, c'était survivre, il fallait se débrouiller.
Il y a Mussy-la-Ville, il y a Blé, il y a Haète, il y a Brevannes-Tintigny-Étale, Rossignol, évidemment. Et puis alors, en remontant un tout petit peu plus loin, il y a Auchan et Anlois-Messin.
On estime aujourd'hui environ
Rémi Pierlot
à peu près 786 personnes qui ont été victimes de l'invasion allemande en province de Luxembourg.
Il y a 2 ans, le curé d'Haète avait fait certaines réflexions en disant, après autant d'années, les Allemands ne se sont jamais excusés, ils n'ont jamais rien dit, au contraire, ils accusent toujours nos malheureux d'être des francs-tireurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le gouverneur de la province a reçu l'ambassadeur d'Allemagne, et je dois le dire, cet ambassadeur a été remarquable. Ce brave homme a reconnu, a dit « c'est vrai ». Et il a rendu hommage aux victimes et surtout aux descendants.
Eckhard Kunz, ambassadeur d'Allemagne en Belgique.
On était là, à l'invitation du gouverneur de la province de Luxembourg, pour exprimer toute notre consternation sur ce qui s'est passé en août 1914, à la mort de beaucoup de civils, des hommes, des femmes, des enfants.
Certains ont dit, en 2014, on pourrait inviter des Allemands.
Jean Dauphin.
Il y en a même un qui a été plus loin. Je ne comprends pas pourquoi un drapeau allemand ne flotterait pas. Là, je vais vous avouer que ça coince un peu. Moi, je ne comprendrai jamais qu'on ait pu massacrer des enfants et des femmes. Les hommes aussi, hein, mais on n'explique pas. Je vous dirai, on a recommencé en 40. Hein, donc, et on continue partout.